Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Pascal Masirika.
Au sommaire de cette édition, consultation hier entre le président du parti Nouvel Élan et des habitants de la cité de Kwamout dans le Maïndombe. L'ancien premier ministre congolais Adolphe Mouzito veut ainsi apporter sa pierre au règlement pacifique du conflit entre les peuples Teke et Yaka. La situation humanitaire reste critique au Nord Kivu selon la chef du sous-bureau d'Otia. Merci Magnala affirme que cette crise fait suite à la montée de l'insécurité et à l'inaccessibilité de certaines zones où les besoins humanitaires se font sentir. Notre invité, c'est le médecin épidémiologiste du Kasaï Oriental. Docteur Jean-Pierre Soumba affirme que la rougeole a coûté la vie à 57 enfants sur plus de 5000 cas documentés depuis le début de l'année du fait de la promiscuité, la pauvreté, la malnutrition et la faible couverture vaccinale. Madame, messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus. Ouvrons ce journal par le Maïndombe où l'ancien premier ministre de la RDC et président du parti politique Nouvel Élan a entamé hier des consultations avec des habitants de la cité de Kwamout dans le territoire du même nom. Adolphe Mouzito veut ainsi apporter sa pierre à la résolution d'un conflit qui déchire les peuples Teke et Yaka. À Bandundouville, Irène Boma.
En visite à Kwamout depuis mercredi pour s'inquiéter personnellement de la situation, le premier ministre honoraire Adolphe Mouzito a échangé jeudi avec plusieurs couches de la population de ce territoire. Il a reçu entre autres les associations des jeunes, les autorités administratives, la société civile, les chefs coutumiers et autres. Son attaché de presse Alain Choukourou précise que même les chefs coutumiers Yaka ont également pris part à ces consultations. Les échanges ont tourné autour du conflit entre les peuple Teke et Yaka qui a fait couler jusque-là le sang de plus de 70 personnes en moins de 2 mois. Selon l'initiateur du parti Nouvel Élan, ces consultations vont lui permettre de découvrir les raisons profondes de ces conflits afin de voir comment restaurer la paix dans ce coin du pays. Notez que dès son retour à Kinshasa, Adolphe Mouzito, l'un des leaders du Grand Bandundu, va tenir lundi prochain une conférence de presse pour éclaircir l'opinion sur tous les éléments recueillis lors de sa mission à Kwamout, a-t-on appris de son attaché de presse. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Nitouri, pendant 7 ans, 5 corps en décomposition ont été découverts jeudi par des agriculteurs au site minier de Mandje dans la forêt de Mayuano, située à 35 km de Mambasa Centre. Les victimes seraient des otages des rebelles ougandais de l'EDF et leurs supplétifs Maïmaï. Selon des témoins, 4 corps n'ont pas été identifiés. John Voulevario de la société civile demande au service de sécurité d'organiser une fouille systématique dans les zones de combat pour retrouver d'autres corps. Il a été joint par Ezekiel Mouzalia.
De manière générale, la situation tout d'abord sur les places sécuritaires du territoire de Mambasa est précaire, à telle fin que l'axe Mambasa-Komanda, l'axe Mambasa Beni, sont des axes qui sont généralisés par les déplacements de la population. Hier, les agriculteurs ont eu à découvrir 5 corps, tous hommes. Leur identification a échappé à tout le monde. C'est une crainte pour la population et c'est à ce sens que nous étions en train d'une part de solliciter à ce que les autorités de pouvoir encore multiplier la fouille des rebelles partout où ils se trouvent dans la région. Les rebelles ne sont pas très loin de la région. Ils sont en train d'être même par moments appréhendés dans différentes forêts, toujours au fait fort de Mayuano et Bangou.
Non loin de là, au Nord Kivu, la société civile de la commune de Bungulu alerte sur la présence d'hommes armés suspects depuis mardi dernier à la limite de la ville et le territoire de Beni, mais aussi à Kahumu et à Pasisi, des localités situées entre les communes de Bungulu et Moulekera. La nouvelle est confirmée par les services de sécurité. Pour en parler, retrouvons à Beni Marc Marofimbo.
C'est depuis le mardi dernier que le mouvement des hommes armés suspects sont observés à Buna et Kasehe, les entités situées à la limite entre la ville et territoire de Beni, vers sa partie ouest. Information confirmée par le commandant de la police à Pasisi. La société civile de la commune de Bungulu estime que les autorités doivent prendre ces alertes au sérieux afin d'éviter les pires. Moïse Malkidogo est son président.
Comme ils sont venus vers l'autre côté, là, c'est que certainement ils vont tuer, à moins qu'ils ne cherchent autre chemin pour traverser. S'il n'y a pas des alertes prises en considération, en tout cas, cas, c'est compliqué.
Les services de sécurité rassurent. Le capitaine Anthony Malouchaï est porte-parole des opérations Sokola 1.
Nous avons déjà pris des stratégies. Nous avons renforcé nos dispositifs dans des zones que nous avons jugées suspectes, dans des prisons de Beni et de Butembo, mais aussi dans d'autres lieux stratégiques. C'est pour empêcher l'ennemi de faire des incursions dans des agglomérations et aussi protéger la population contre ces assaillants qui tuent et qui pillent la population des Beni.
À lui d'ajouter que c'est depuis la dernière attaque de la prison de Kakwangura de Butembo que les agissements de l'ennemi s'observent aux alentours de Beni et Butembo. Ainsi, la population doit continuer d'alerter les services de sécurité, car la sécurité est une affaire de tous. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Nord Kivu encore, la situation humanitaire reste critique dans la province. Constat fait lors d'un atelier de 3 jours organisé par l'Office des affaires humanitaires des Nations Unies. La chef du sous-bureau d'OCHA fait remarquer que cette crise fait suite à la montée de l'insécurité et à l'inaccessibilité de certaines zones où les besoins humanitaires se sont accrus. Madame Merci Magnala s'est confiée à Gabriel Ouameña.
Cette année, la situation vraiment s'est détériorée, particulièrement avec les nouveaux crises qui a commencé le mois de mars. Ça, c'est les crises qu'on s'appelle M23. Au niveau des territoires de Rutshuru, qui aussi impliquaient les territoires de Nyiragongo, mais aussi avec les mouvements de sécurité pour aller appuyer cette crise, il y a plus de nombreux de gaps qui restent partout. Donc, si je prends Beni par exemple, on voit la situation était vraiment détérioré. Les populations qui sont dans les souffrances, parce qu'ils ont besoin de quelques aides. Il y a quelques endroits où on n'est pas avec la facilitation pour y aller. Pour le moment, vraiment, les stratégies, c'est pour voir comment on va travailler avec les partenaires locaux qui sont déjà sur le terrain. Cette année, déjà, juste au niveau de Nord Kivu, les SAF a donné presque 15 millions. Aussi, on est avec les pool funds, qu'est-ce qu'on peut au niveau de Nord Kivu, il est donné quelque pas mal l'argent, presque 7 millions, 10 millions déjà.
Et puis, arrivé hier à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, le leader de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, a tenu un meeting, place de l'Indépendance. Devant une foule immense qui l'attendait, Vital Kamerhe-Lwa Kanyigini a annoncé un plan de sortie de crise pour une paix durable à l'est de la RDC, un plan sur 3 volets. Ses propos ont été recueillis par Jean Kassami.
Ce plan se décline sur plusieurs volets. Il y a le volet militaire, parce que on ne peut pas être distrait. Nous devons continuer tous à soutenir nos forces armées et la police nationale congolaise. Le deuxième volet, c'est le volet diplomatique et politique. Parce que pour guérir une maladie, il faut d'abord établir un diagnostic clair. Après avoir diagnostiqué la crise récurrente de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo et particulièrement au Nord Kivu et aujourd'hui la cité de Bunagana occupée, j'ai dessiné un triangle. Au sommet du triangle, il y a la République démocratique du Congo. Sur la base de ce triangle, il y a d'un côté le Rwanda et de l'autre côté l'Ouganda. Et dans l'œil du cyclone, au milieu du triangle, il y a le M23. Et donc si nous voulons résoudre ce problème, nous en tant que Congolais, nous devons demander à nos frères de M23 qui se trouvent à Bunagana de libérer Bunagana, de déposer les armes et les revendications, légitimes ou pas, seront examinées en toute sincérité.
Ouvrons maintenant la page santé de ce journal. Plus de 2000 nouvelles infections au VIH-Sida ont été rapportées mercredi dernier à Goma, au Nord Kivu, par le Programme national multisectoriel de lutte contre cette pandémie. Ces chiffres du premier semestre de l'année en cours font suite à l'insécurité et à l'irresponsabilité de certains habitants. Ils s'ajoutent aux 21 300 cas sous traitement aux antirétroviraux. Le secrétaire exécutif du PNMLS fait remarquer que la pandémie est toujours une urgence sanitaire au Nord Kivu. Aubin Mongili le dit à Julungala.
Abandonner le VIH, donner toute la priorité aux nouvelles épidémies, ça c'est mal agir, parce que le VIH ce n'est pas un congé technique, j'ai continué à dire ça. Il est en train d'évoluer, il est en train d'infecter, il est en train de tuer, ce qui ne se fait plus sous d'autres cieux. Nous informons aux gens que les ARV sont disponibles. Les médicaments de traitement antirétroviral sont disponibles au niveau des structures de prise en charge et c'est gratuit. Nous appelons aussi aux gens de connaître leur statut sérologique, c'est-à-dire vous allez vous dépister au VIH, c'est gratuit et s'il faut que vous fassiez les rapports sexuels, portez le préservatif. S'il n'y en a pas, abstenez-vous. Ça, c'est lié à la responsabilité de tout et chacun de nous.
Le programme national multisectoriel de lutte contre le sida rappelle que le VIH sida a coûté la vie à 138 personnes au premier semestre de l'année en cours. Au Tanganyika, surpeuplement et mauvaises conditions carcérales à la prison centrale de Kalemie, constat fait ce vendredi par le coordonnateur de la commission des droits de l'homme du Tanganyika après avoir visité cette prison. Conséquence, 3 détenus sont morts la semaine dernière. Dieudonné Kabulo met les autorités du pays devant leurs responsabilités. Il le dit au micro de Paul Mounanga.
À notre arrivée à la prison, les autorités de la prison nous ont dit que les conditions sont très mauvaises, puisque notre prison ici est conçue pour 250 personnes. Maintenant, je dois gérer 900 plus de personnes au lieu de 250. Vous voyez les conditions, comment les gens peuvent dormir, c'est compliqué. Ils passent nuit à tous des rôles, c'est-à-dire vous êtes à 50 dans un local, 25 dorment et les autres debout. Après, je ne sais, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ceux qui dormaient se tiennent aussi debout et ceux-là qui étaient debout dorment. C'est l'État qui doit prendre la responsabilité de ces gens-là. Nous lui avons posé aussi la question concernant la santé. Il dit que nous n'avons pas de médicaments, qu'il y a carence de médicaments. La nourriture, la même chose, il nous a même montré les dépôts. La semaine passée, nous avons enregistré 3 morts dans la prison. Ce qui est ahurissant aussi, c'est que ces 3 morts-là ont été enterrés dans quelles conditions? Les corps se décomposaient déjà.
Bouclons notre série de reportages sur Yangambi. Cette localité du territoire d'Isangi dans la province de la Tchopo a abrité début septembre, souvenez-vous, la conférence scientifique sur la pré-COP 27. Nous vous proposons maintenant de découvrir l'une des espèces végétales très prisées des forêts à cause de ses multiples fonctions. Il s'agit de l'arbre Aphromosia. Paul Matendo revient de Yangambi. Voici son reportage.
Caressé par ses refrains d'oiseaux à la recherche d'Aphromosia, nous rencontrons Bernard Bonioma, spécialiste des forêts, qui nous parle de cet arbre.
L'Aphromosia, c'est une espèce qui donne le bois de première qualité aux menuiseries, aux charpenteries et même aux ébénisteries.
Est-ce qu'il coûte cher dans sa commercialisation?
Oui, c'est un arbre qui coûte cher dans la commercialisation. Ici, chez nous, bon, il n'y a pas vraiment l'exploitation puisque nous sommes dans le domaine de la recherche. On est toujours en train de conserver. Mais c'est un bois de qualité.
À la question de savoir pourquoi dit-on que cette espèce est en voie d'extinction, la réponse.
C'est une espèce qui est en voie d'extinction puisqu'elle est exploitable, surexploitable même dans certaines zones.
Outre la menuiserie, cet arbre contient également des vertus médicales selon Bernard Bonioma.
Dans la tradition, les corses guérissent les maladies de la peau ou soit la lèpre.
Tous les chercheurs de Yangambi rencontrés appellent à la protection de cette espèce.
Actualité internationale.
Au Sénégal, l'ancienne première ministre Aminata Touré, députée de la majorité, interpelle le président de la République Macky Sall dans une lettre rendue publique ce vendredi. Selon des sources très crédibles, écrit-elle, des éléments proches de votre entourage, monsieur le chef de l'État, et celui de la première dame, envisagerait des actes de neutralisation physique afin que le suppléant en droit de siéger puisse me remplacer définitivement à l'Assemblée nationale. Aminata Touré, tête des listes de la coalition pour les élections législatives organisées le 31 juillet, a publiquement contesté aujourd'hui le choix d'Amadou Mamé Diop comme candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale. Non loin de là, au Mali, deux militaires français ont été arrêtés ce vendredi et libérés, hier jeudi et libérés ce matin. Les relations entre la France et le Mali sont devenues glaciales depuis des mois. L'ambassadeur de France à Bamako a été expulsé. La force Barkhane a même été poussée au départ. Et aujourd'hui, Bamako accuse devant les Nations Unies la France de soutenir les groupes terroristes djihadistes. À première vue, cet épisode ne devrait pas nourrir une nouvelle escalade.
L'invité.
Notre invité, c'est le médecin épidémiologiste du Kasaï oriental. Docteur Jean-Pierre Soumba affirme que la rougeole a coûté la vie à 57 enfants sur plus de 5000 cas documentés depuis le début de l'année. Il s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, docteur Jean-Pierre Soumba. La province du Kasaï oriental est actuellement secouée par l'épidémie de rougeole. Quelles sont les statistiques en votre possession?
Oui, merci madame. Il faut noter que nous sommes au niveau de notre province du Kasaï oriental où nous avons eu des cas de rougeole qui en fait ont commencé presque au début de l'année parce que déjà vers la première, deuxième semaine, on avait déjà des cas suspects. Mais c'est vers la huitième semaine, c'est-à-dire au mois de février, que nous avons connu un peu plus de cas de rougeole. Cela est parti des zones de santé de Miabi, mais aussi la zone de santé de Kishimbi, qui ont connu l'épidémie déjà à cette période-là. Il y a eu des actions qui ont été menées, mais avant d'arriver aux actions, je vous signale que la maladie a évolué et elle est arrivée jusqu'au niveau de la ville, où nous avons déjà presque toutes les zones de santé qui sont concernées par cette épidémie, mais à des degrés différents. Et le nombre de cas à ces jours, jusqu'à la 35e semaine de l'année, où nous comptons environ autour de 5600 cas qui sont déjà rapportés par nos services de santé, et de ces cas, il faut noter environ 57 décès, ce qui fait que nous avons le taux de létalité autour de 1%, c'est-à-dire que sur chaque 100 cas, il y a environ un enfant qui meurt de cette pathologie. C'est la tranche d'âge qui va de 1 an à 5 ans, c'est là où nous avons le plus grand nombre de cas, mais n'empêche que pour cette fois-ci, nous avons aussi rencontré des enfants malades au-delà de ces 5 ans, et même un peu plus, nous avons trouvé certaines femmes enceintes, 24-26 ans, qui étaient aussi concernées par la rougeole. En principe, la tranche d'âge la plus touchée, c'est de 1 an à 5 ans, mais on peut avoir aussi des cas dans la tranche d'âge un peu plus avancée. Ça arrive lorsqu'on a la faiblesse au niveau de l'immunité du corps, on peut contracter la rougeole.
Docteur Jean-Pierre Soumba, vous êtes épidémiologiste. Pouvez-vous nous dire pourquoi cette épidémie refait surface chaque année dans la province du Kasaï oriental?
Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent intervenir ici. Je vous signale d'abord que cette maladie, c'est une maladie à virus, c'est une maladie virale, comme on dit. Cette maladie n'est que chez l'homme. C'est une maladie qui ne peut être transmise que par l'homme. Donc ça passe d'un homme à un autre. Mais il y a beaucoup de facteurs de risque et aussi il y a beaucoup de facteurs favorisants. Dans les facteurs favorisants qu'il faut noter au niveau de la province, c'est d'abord la promiscuité. Vous voyez comment notre population vit dans les différents milieux. Il y a la pauvreté aussi. Donc, les conditions économiques favoriseraient aussi cette maladie. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi la malnutrition. Mais surtout, la faible couverture vaccinale peut aussi influencer cette pathologie. En fait, ça, ce sont les facteurs favorisants. Mais il est noté dans l'évolution de cette maladie que nous avons une maladie qui a presque un cycle. Chaque 3 ans, presque, nous vivons la même chose par rapport à cette maladie. Et cela peut être expliqué de différentes manières, mais il faut aussi des études approfondies pour le confirmer. Nous pensons qu'à chaque fois qu'on vaccine, on n'arrive pas à atteindre tous les enfants. Il y a toujours des enfants qui ratent, il y a même les enfants qui se cachent, il y a des enfants qu'on n'arrive pas à vacciner. Et aussi, il y a l'efficacité du vaccin qui fait que le vaccin peut être efficace à 85%. C'est-à-dire que sur chaque enfant vacciné, il y a au moins 15 enfants où le vaccin ne va pas donner les résultats escomptés. Maintenant, lorsqu'on prend toute cette masse des enfants non vaccinés et ceux qui sont ratés par l'efficacité du vaccin, ça fait une masse assez importante. Et si cette masse est comptée dans les 3 ans, ça devient aussi un grand nombre et c'est une fragilité par rapport à l'immunité. À ce moment-là, à partir de cette masse-là, la maladie peut se faire voir dans la communauté. Donc, c'est une des voies, mais il faut aussi qu'on puisse étudier en profondeur pour déterminer tout ce qui peut être à la base de ces retours environ chaque 3 ans au niveau de notre province.
Est-ce que vous avez tous les intrants pour la prise en charge des malades?
Depuis les début de cette maladie, nous avons connu une vaccination dans 6 zones de santé. On voit quand même une baisse assez remarquable parce qu'à ces jours, les taux d'incidence ou même les taux d'attaque dans ces zones de santé, c'est faible. On peut trouver par semaine un enfant, 2 ou 3. Mais il y a le reste des zones de santé où on n'a pas vacciné, où nous avons le plus grand nombre de cas. Donc la vaccination a eu avec l'appui du niveau central. Pendant que nous parlons ici, il y a le partenaire qui nous appuie aussi, mais qui sont dans 2 zones de santé où on a le plus grand nombre de cas. C'est la zone de santé de Kasansa et la zone de santé de Mukumbi, où la vaccination se mène déjà par rapport aux enfants qui sont atteints dans ces zones de santé-là. Mais il reste une grande part parce qu'il va falloir pour le moment vacciner dans toutes les autres zones de santé. C'est ça le plaidoyer que nous sommes en train de mener pour qu'on arrive à vacciner dans toutes ces zones de santé-là.
Docteur Jean-Pierre Somba, je vous remercie.
Merci beaucoup, maman.
C'était l'invité de Radio Okapi, le médecin épidémiologiste de la province du Kasaï-Oriental, Docteur Jean-Pierre Somba, a affirmé que la rougeole a coûté la vie à 57 enfants sur plus de 5000 cas qui ont été documentés depuis le début de l'année. Il s'entretenait en Boujima et avec Esther Ndalafina. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Pierre-Oela Meji et Noëlla Luzitu Kabambi qui m'ont accompagné.